Programme de cours de cuniculture en licence 3e année 1er semestre dispensé par le Dr Kebadar, titulaire d'un doctorat en production animale et gestion de parcours. Generalike. L'élément noble de la ration alimentaire humaine, notamment les protéines animales, connaît un déficit inquiétant dans les régions défavorisées dont l'Afrique subsaharienne en particulier. La quête d'une solution durable pour remédier à ce déficit a permis de développer l'élevage des espèces animales à cycle court et prolifique. Parmi ces espèces, le lapin, Oryctolagus cuniculus, occupe une place de choix. Petit mammifère originaire du sud de l'Europe et de l'Afrique, le lapin est un animal homéotherme qui par divers mécanismes comportementaux et physiologiques s'adapte aux conditions de son environnement. Bien qu'étant un animal à fourrure et donc mal adapté au climat tropical, le lapin présente des atouts incontestables pour la production de viande. Il se reproduit vite et il est capable de rentabiliser au mieux des aliments végétaux bon marché. Cette faculté rend l'élevage possible dans diverses zones climatiques. Lorsque la température est supérieure à 30 degrés Celsius, le taux d'ovulation chez la lapine est réduit de moins de 5%. Les pays du Sud en général, par leur climat chaud, sont perturbés par ces baisses de rendement dans les performances de reproduction des lapines qui conditionnent très fortement la rentabilité d'un élevage. L'amélioration de ces performances peut être obtenue si les animaux ont un caractère naturel prédisposé, l'alimentation répond aux besoins de l'animal et si l'environnement est favorable. Taxonomie du lapin. Le lapin domestique ou lapin européen, Oryctolagus cuniculus, appartient avec les lièvres, genre le pu, et le lapin américain, Oryctolagus sylvilagus, au superordre des glires, ordre des lagomorphes, famille des léporidés, sous-famille des léporinés, Maillet et al., 2003. Description du lapin. Petit animal à fourrure de couleur variable, à queue courte et à longues oreilles. Le lapin diffère du lièvre par des oreilles et des pattes plus courtes. Il se distingue des rongeurs par l'existence d'une deuxième paire d'incisives à la mâchoire supérieure. C'est un animal de mœurs crépusculaires et nocturnes, constructeur de terriers en pleine nature, peu bruyant, docile, qui aime la tranquillité. Craintif et sans défense, c'est par la fuite et sa prolificité qu'il assure la présence de l'espèce dans la nature malgré ses nombreux prédateurs. Nathan, 1959. Le lapin est un animal couvert d'une fourrure assez épaisse de couleurs variables. Les principales parties du corps du lapin sont identifiées sur la figure ci-dessous. Pour la majorité des races, à l'exception des nains, l'allure générale du corps est différente selon le sexe. Une tête large et forte, un thorax développé, des membres relativement épais et une musculature bien extériorisée sont généralement caractéristiques du mâle. Les femelles présentent, toute proportion gardée, plus de finesse générale avec une tête plus étroite, un corps paraissant plus allongé et une ossature un peu plus légère. Seul l'arrière-train est plus développé avec un bassin large. Chapitre 1. Étude des races de lapins. Espèce très malléable, de multiplication rapide, le lapin a été pour l'amateur l'occasion de croisements et de sélections qui ont permis la création de nombreuses races. Celles-ci ne se différencient souvent que dans leur aspect extérieur par la taille adulte et la couleur du pelage. Elles ne présentent donc qu'un intérêt que l'on peut nommer de sportif, par exemple la conformation musculaire. Les caractères de production n'ont que très rarement été pris en considération dans la sélection. Cela explique que la notion de race ne pourra pas être associée automatiquement à des notions de niveau de production. Il existe de nombreuses races de lapins. On rencontre beaucoup d'hybridations entre races, races hybrides, et de nombreuses variations locales souvent appelées lapins locaux, races indigènes, races communes, etc. Nous avons classé ici les races en deux groupes. Cela pour des raisons pratiques et sans prétention de faire des distinctions scientifiques correctes. Et caractéristiques des principales races. Les différentes races de lapins se distinguent en fonction de la nature et de la couleur du poil et du format de l'animal. Le critère le plus souvent utilisé pour distinguer les races est la nature du poil. Les races ordinaires sont caractérisées par la présence de poils de bourre, environ 2 cm, et de poils de jarre nettement moins nombreux mais plus épais et plus longs, 3 à 4 cm. Les jarres sont aussi parfois appelées poils de garde. Les rex ou races dites à poils ras sont des races où bourre et jarre ont la même longueur, 2 cm, donnant un aspect velouté à la fourrure. Citons pour mémoire les races à duvet, lapin angora, et à poils de bourre, lapin rex. Parmi les races ordinaires, on distingue les petites races, moins de 3 kg, tel le petit russe. Ce sont des races d'amateurs et même d'appartements. Les races d'agrément et de fourrure diffèrent des races de chair en ce sens qu'elles ne sont pas forcément de bons producteurs de viande ou de bons reproducteurs. Elles n'ont pas une grande résistance aux maladies. Elles ont de belles peaux, de belles couleurs, des oreilles bien formées, etc. L'angora mérite une attention particulière. La valeur de l'angora pour la petite industrie ne doit pas être sous-estimée. Les poils peuvent atteindre une longueur considérable et fournir des fibres de grande valeur pour la filature et le tissage. Ils semblent mieux pousser dans les climats froids, ce qui pourrait réduire la valeur de l'angora dans les plaines tropicales. Malheureusement, il existe peu d'informations sur ce sujet. Les races utiles sont les producteurs de viande grâce soit à un taux de croissance élevé nécessitant une bonne nourriture, soit à des portées nombreuses et fréquentes. Il faut faire ici une distinction selon le poids. Race légère adulte 2 à 3 kg, tel le petit russe. Ce sont des races d'amateurs et même d'appartements. Race moyenne 3 à 5 kg, tel le fauve de Bourgogne ou le néo-zélandais. Ce sont des races commerciales par excellence, bonne précocité, format correspondant à la demande, conformation satisfaisante, chair fine et dense. Race lourde plus de 5 kg. Les races géantes de 5 à 7 kg, telles le géant des Flandres ou le bélier français. Elles ne sont intéressantes qu'en croisement industriel. Pour choisir une race, il faut tenir compte de plusieurs choses. Les croisements locaux semblent très souvent de races légères. Les lapins peuvent rester petits malgré un potentiel génétique qui devrait leur permettre de devenir très gros. Cela tient à une alimentation déficitaire, aux maladies, aux accouplements précoces et trop fréquents, et au manque de soins. Avant d'envisager l'importation de gros et beaux lapins, il est préférable d'essayer de donner aux races locales la nourriture et les soins dont elles ont besoin. Les races importées font très souvent perdre du temps et de l'argent car elles se développent mal, tombent malades quand les conditions locales sont défavorables, et coûtent très cher. Rien que le stress causé par le transport peut provoquer des maladies et même la mort. Même si un lapin robuste fait toujours bonne impression, les gros lapins ne sont pas toujours avantageux. Ils s'accouplent tardivement et ne commencent à se reproduire qu'à l'âge de 9 mois environ, alors que les races plus légères se reproduisent dès l'âge de 6 mois. On peut donc choisir soit 3 lapines de 3 kg chacune mettant bas 3 fois et plus tôt, soit une seule lapine de 9 kg mettant bas une seule fois et plus tard. Par ailleurs, rares sont les familles qui peuvent consommer en une seule fois 4 kg de viande, le produit d'un lapin de 9 kg. Le lecteur doit être averti contre le géant des Flandres. Ce lapin a une très belle apparence physique qui favorise les relations publiques. 9 kg est un poids courant. Mais sa fécondité n'est pas très bonne et sa prolificité est basse. Il est assez sensible aux maladies, maux de pattes notamment, et contient beaucoup plus d'os et d'intestin que les races moyennes, néo-zélandaises et californiennes. Choisissez une race adaptée à votre situation locale. Il est difficile de donner des conseils généraux sur ce sujet. S'il s'agit d'un élevage en basse-cour pour la production de viande, nous recommandons deux races, la néo-zélandaise et la californienne. Néanmoins, le choix doit dépendre surtout des disponibilités locales et des préférences personnelles car on ne soigne bien que ce qu'on aime. Pour obtenir de bons résultats, l'essentiel est de prendre goût à l'élevage et d'éviter au maximum les risques. Généralement, cela n'implique pas l'achat de lapins gros et coûteux. À le standard, fauve de Bourgogne. Apparence générale. Aspect calme et tranquille, proportions régulières, formes harmonieuses, larges, fortes et ramassées. L'ensemble dénote la vigueur et la santé. La tête est forte et large chez le mâle, fine et plus allongée chez la femelle. L'œil est bien ouvert, mais de grandeur moyenne, iris gris, marron, pupille bleu foncé dans les deux sexes. L'oreille est forte, bien ouverte, droite mais légèrement bombée du côté de la face interne, se touchant à leur base, longueur moyenne 13 cm. Le cou est court et gros dans les deux sexes. Le fanon est absent chez le mâle, il est admis chez la femelle adulte, mais reste simple et sans extension exagérée. Les pattes sont courtes et fortes. Conformation du corps. Il est bien proportionné, sans parties saillantes, aux formes arrondies et plutôt ramassées, le râble est court et épais. La queue est moyenne, droite, collée contre la croupe. Le poids moyen du mâle est d'environ 3,5 à 4 kg, celui de la femelle atteint 4,5 kg. La couleur générale est fauve-jaune, l'œil est cerclé de blanc pâle, se fondant avec le fauve, les cils sont plutôt foncés. Le dessous de la tête blanc pâle qui va en diminuant jusque derrière les mâchoires et formant ainsi que les côtés du cou, une ligne de séparation entre la tête et les épaules. Les oreilles fauves dans leur partie externe sont pourvues intérieurement de poils blancs très courts et peu fournis, le bord est margé de cette même couleur. Le dessous des pattes, du ventre et de la queue en blanc ou crème, sauf la partie interne des cuisses est légèrement fauve. En principe, le fauve doit dominer et la partie blanche être moins apparente. Le poil est assez serré et la couleur franche. Les poils sont fauves sur presque toute leur longueur pour finir blancs à leur extrême base. Poids moyen en grammes selon l'âge. La pro à la naissance 70. La pro de 15 jours 350. La pro d'un mois 7 cents. La pro de 8 semaines 1700. La pro de 10 semaines 2000. La pro de 12 semaines 2005 cents à 2007 cents. Adulte 3005 cents à 4005 cents. La croissance est rapide. Le fauve de Bourgogne est réputé pour la finesse de sa chair. Le rendement en viande est élevé. B. Le néo-zélandais. C'est la race la plus couramment élevée aux États-Unis dont elle est originaire. C'est le type idéal du lapin à viande. Le cou est fort et court. Les oreilles sont courtes. Les pattes sont courtes. Le néo-zélandais est à peau blanche et poils blancs, mais il existe des variétés à peau noire ou rousse. Les mères sont prolifiques avec environ 8 à 10 lapros par portée. Poids moyen en kilogrammes selon l'âge. Âge mâle femelle. 2 mois 2,1 à 1,8 à 2,1. 3 mois 2,5 2,2 à 2,5. 4 mois 3,2 2,7 à 3,2. 5 mois 3,8 3,6 à 3,8. 6 mois 4,1 4,5. 7 mois 4,5 5,5. La croissance est rapide. Son indice de consommation est de 3 à 3,5. À moins de 10 semaines, un lapro néo-zélandais donne une carcasse de 1200 à 1500 grammes. Son rendement est avantageux, 62 à 64%. C'est autre race. Le californien. Lapin blanc à extrémité noire, oreilles, pattes, nez, queue. Son poids varie entre 4 et 5 kg. Très prisé en élevage industriel en raison de sa rusticité, de sa prolificité et de la qualité de sa chair. 2. Le géant des Flandres. Animal de grande taille, long et large. Le poids varie de 5 à 7 kg pour les mâles et de 6 à 9 kg pour les femelles. Le poil court est de couleur gris lièvre. Utilisé en croisement, le géant des Flandres permet d'améliorer la croissance des races à chair plus fine. Chapitre 2. Alimentation. Dans la nature, un animal se nourrit en fonction des besoins de son organisme et de ses mœurs, de la disponibilité de la nourriture, de l'importance des populations cohabitant sur le même milieu. Les lapins élevés en colonie ou en cage dépendent entièrement de l'éleveur pour leur nutrition. Celui-ci doit apporter chaque jour l'eau et la nourriture à ses animaux. Les lapins doivent toujours avoir de l'eau et de la nourriture à leur disposition. Les mangeoires et les abreuvoirs ne doivent jamais être vides. Les lapins bien nourris sont robustes et ont un beau pelage. Ils grandissent vite, font beaucoup de lapro, et tombent rarement malades. L'étude du lapin domestique a permis de cerner le problème des besoins alimentaires du lapin, en particulier en matière minérale, vitamines, cellulose ou aliments de lest, lipides, protéines, glucides libérant de l'énergie, etc. La ration alimentaire correspond à la quantité de tous les aliments consommés sur une journée par l'animal. Équilibrée, elle doit satisfaire ses besoins. À physiologie digestive du lapin. La principale caractéristique du fonctionnement du tube digestif du lapin est la sécotrophie. Celle-ci peut se définir comme la production de deux types d'excréments et par la réingestion systématique mais exclusive des crottes molles ou sécotrophies. Les crottes non réingérées sont celles que l'on retrouve dans les litières. On les désigne sous le nom de crottes dures. Elles ont une forme en goutte d'eau presque sphérique. Leur teneur en eau ne dépasse pas 40 à 50%. Elles sont riches en cellulose brute peu digestible. Les sécotrophes ou crottes molles sont constituées de boules plus petites réunies en grappes allongées comprenant 5 à 10 de ces petites boules. Leur teneur en eau est en général de 70%. Cela explique le caractère mou. Elles sont riches en protéines, 30 à 35% de matière sèche. Elles sont constituées par le contenu du cécum qui a transité à travers le côlon où il subit un enrobage par une fine couche de mucus. Au moment de leur émission par l'anus, les crottes molles sont aspirées par la bouche de l'animal et sont avalées directement. Elles subissent alors une digestion normale. L'élevage des lapins sur grillage ne supprime pas la sécotrophie car les lapins prélèvent directement à l'anus les crottes molles. Ainsi, le recyclage réalisé par l'ingestion des crottes molles permet d'augmenter la digestibilité de la ration en apportant des protéines issues de la dégradation de la cellulose par les micro-organismes du cécum, ce que réalisent les bovins dans la panse. B. Les besoins et comportements alimentaires des lapins. B. Un besoin en eau. Contrairement à ce que bon nombre d'éleveurs pensent, le lapin boit de l'eau. Il est vrai que c'est herbivore lorsqu'il est alimenté exclusivement avec de l'herbe fraîche et riche en eau bois peu. Mais nourri avec des aliments secs, foin, granulés ou farine, les jeunes en croissance boivent 1,5 à 2 fois plus que la quantité d'aliments secs qu'ils mangent tandis que la lapine allaitante boit 2 à 2,5 fois plus d'eau qu'elle ne mange d'aliments. Comme celle des humains, cette eau doit être potable pour ne pas entraîner de maladies. Si l'eau est sale, même s'il a soif, le lapin ne boit pas. Cet élément vital et ses qualités conditionnent la santé des lapins tant en maternité qu'en engraissement, permettant une bonne lactation et une bonne croissance de la naissance à l'abattage. L'eau est un facteur de réussite mais peut aussi être source de problèmes selon l'attention qu'on y porte. Prévoir en moyenne par jour 0,2 à 0,3 litres d'eau par lapin en croissance, 0,6 à 0,7 litres d'eau pour une lapine allaitante, 1 litre et plus par jour pour une lapine et sa portée au cours de la semaine précédant le sevrage. Le lapin boit un grand nombre de fois au cours de la journée et de la nuit, 25 à 30 fois en moyenne par 24 heures. Bien veiller à ce que les bacs et les abreuvoirs soient remplis en permanence, en particulier le soir avec une quantité suffisante pour la nuit. Si l'eau est polluée par des micro-organismes, on peut la désinfecter simplement en y ajoutant de l'hypochlorite de sodium, eau de Javel. Le dosage préconisé est de 2 ml d'eau de Javel dosant 12 degrés chlorométriques pour 10 litres d'eau, ou 200 ml pour 1 mètre cube d'eau, ce qui est la même chose. On peut aussi utiliser d'autres produits pour désinfecter l'eau tels que les solutions iodées ou le permanganate de potassium. La propreté des abreuvoirs, la purge régulière et le nettoyage des bacs, des tuyaux, des rampes d'abreuvement doivent être une préoccupation permanente du cuniculteur. Par ailleurs, si l'eau est polluée par des minéraux ou des matières organiques, c'est en amont, à la source d'approvisionnement en eau qu'il faut intervenir pour obtenir une eau potable, même norme que pour l'alimentation humaine. Enfin, l'eau ne doit pas chauffer au soleil. Les lapins ne boivent pas de l'eau chaude. Parfois, les lapins et les abreuvoirs sont bien à l'abri du soleil direct, mais les réservoirs et ou les canalisations d'alimentation en tube noir, un tuyau opaque et bien pour éviter la pullulation d'algues dans les tuyaux sont exposés au soleil direct. Ce qui arrive aux lapins, c'est de l'eau chaude. Il faut absolument éviter cette situation. B2 besoin en énergie. Le besoin quotidien en énergie du lapin varie en fonction du type de production mais aussi avec la température ambiante. Ce besoin en énergie du lapin en croissance ou en reproduction, gestation, lactation peut être couvert par des aliments distribués à volonté contenant de 2200 à 2700 kcal d'énergie digestible par kilogramme de matière. Le lapin régule assez bien la quantité d'aliments à consommer tant que la température ne dépasse pas 25 à 26 degrés Celsius. Lorsqu'il fait plus chaud, par exemple 30 degrés Celsius, son appétit diminue et sa croissance ou sa production laitière ralentissent. Dans l'aliment, l'énergie est fournie par les glucides, sucres et féculents, les lipides ou graisses, la fraction digestible des fibres et secondairement par l'apport de protéines. B3 besoin en lipides. Le besoin en lipides ou graisses est couvert avec une ration contenant 2,5 à 3% de lipides. C'est la teneur spontanée de la majorité des aliments naturels entrant dans la ration. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter des corps gras aux aliments du lapin pour couvrir ses besoins énergétiques car les matières premières utilisées en contiennent suffisamment. Certaines sont même particulièrement riches. Comme les sons de riz, 3 à 16% de lipides suivant qu'ils ont été déshuilés ou non, ou certains tourteaux obtenus par pression simple, par exemple 8 à 9% de lipides dans des tourteaux expellés de copra ou de palmiste. B4 besoin en cellulose, fibres. La cellulose est un composant végétal qui, combiné avec la lignine, des hémicelluloses et des pectines constituent les parois des cellules végétales, l'élément majeur de rigidité de la plante. Le lapin est un pseudo-ruminant sinon un faux ruminant. Son tube digestif a besoin de lest pour bien fonctionner. Celui-ci est fourni par les parois des végétaux qu'il mange. De plus, grâce aux micro-organismes de son cécum, le lapin est capable de digérer en partie ses éléments fibreux. Ses besoins sont donc plus importants que d'autres espèces d'élevage comme le porc ou le poulet. Pour les lapins en engraissement, le taux de cellulose brute d'un aliment complet dosage par la méthode de Wind devra être de l'ordre de 14 à 16%, c'est-à-dire un taux nettement plus élevé que celui des aliments pour volaille. Les lapines reproductrices pourront se satisfaire d'un aliment ne contenant que 12 à 13% de cellulose brute. En plus de la cellulose en partie digestible, 25 à 30%, le lapin doit trouver dans sa ration au moins 4 à 5% de lignine, élément indigestible mais qui assure un fonctionnement régulier au tube digestif et réduit fortement le risque de diarrhée. B5 besoin en protéines. Les protéines ou matières organiques azotées sont les molécules les plus originales de la constitution des êtres vivants animaux et végétaux. Les lapins en ont besoin pour la constitution de leur propre corps. Elles sont donc nécessaires pour la croissance et pour la production viande, lait, embryons, lapro. De récents travaux de recherche conduits en Europe ont montré qu'il existe une relation certaine entre l'efficacité alimentaire et la qualité des protéines. Ainsi, parmi les 21 acides aminés qui entrent dans la constitution des protéines, il y en a 10 qui sont des acides aminés essentiels non fabriqués par l'organisme du lapin. Lorsque les protéines alimentaires apportent ces acides aminés indispensables, la ration peut ne contenir que 15 à 16% de protéines brutes pour les lapins à l'engraissement. Chez la lapine reproductrice, le taux optimal de protéines brutes est d'environ 17 à 18%. Lorsque la température moyenne est supérieure à 25 à 27 degrés Celsius, il est souhaitable d'accroître d'environ un point la teneur en protéines des aliments, 16 à 17% pour l'engraissement, 18 à 19% pour les lapines allaitantes. B6 besoin en minéraux et en vitamines. Les minéraux calcium, phosphore, sodium, magnésium, etc. sont indispensables au fonctionnement et à la constitution de l'organisme du lapin. Ils entrent en particulier dans la constitution des os et du lait mais permettent aussi le fonctionnement en favorisant les équilibres intra- et extracellulaires. En phase d'allaitement, la femelle est particulièrement sensible à un bon apport minéral, par exemple calcium 1,1 à 1,3%, phosphore 0,6 à 0,7% de la ration. Les besoins en sels minéraux sont couverts en général par l'aliment commercial. Toutefois, les apports peuvent être améliorés par les compléments minéraux commerciaux. Les vitamines se trouvent dans les divers aliments qui sont distribués aux lapins. Les sources sont les fourrages verts, les céréales, les tourteaux, les sous-produits agroalimentaires, les restes de cuisine et les aliments composés. La provende apporte généralement les composés correspondant aux besoins des lapins. Les vitamines liposolubles A, D, E et K doivent être apportées par l'alimentation. Par contre, si les lapins sont en bonne santé, pas de diarrhée. Les vitamines hydrosolubles C et toutes celles du groupe B sont fournies par la flore digestive et en particulier par l'ingestion des sécotrophes. Un apport de vitamine C peut aider les lapins à mieux supporter la chaleur, mais cette vitamine n'est pas très stable une fois mise dans les aliments ou l'eau de boisson. C'est le choix des aliments. Le choix des aliments à distribuer aux lapins dépend du type d'élevage. Pour un petit élevage, utilisation des fourrages. Le cuniculteur possédant quelques lapins pour sa consommation peut leur donner des fourrages, des déchets domestiques, des résidus des récoltes des champs et du jardinage. La ration ne sera pas parfaitement équilibrée, mais son prix de revient restera très faible. Les fourrages sont les herbes et les feuilles pouvant servir de nourriture aux animaux. Le lapin est un herbivore parmi les fourrages les plus courants en Afrique. Il aime manger herbe à lapin, Tridax procumbens feuille de palmier, et la Guinéensis herbe de Guinée, Panicum maximum haricot sauvage, Centrosma pubescens feuille de patate aquatique, Hypomea aquatica feuille de patate douce, Hypomea batata sida acuta spilia africana ficus imbellata tige et feuille de stylo. Stylosanthes Scabra seca bueravia erecta gliricidia sepium paspalum vagitatum cudzu tropical, Puraria. Phaseoloides herbes à éléphant, Penistum purpureum vernonia pociflora. Les lapins aiment aussi manger les rafles de maïs, les fans d'arachide, de haricots, etc. Pour un élevage à caractère commercial, utilisation d'aliments composés. Lorsque son cheptel devient plus important, plus de 10 reproductrices, l'éleveur doit plutôt distribuer en grande quantité un aliment composé équilibré ou provende et un peu d'herbe comme complément si nécessaire. Le lapin préfère un aliment granulé à un aliment farineux. L'intérêt du granulé est qu'il est fabriqué suivant les besoins spécifiques de l'animal et que ce dernier, ne pouvant trier, consomme exactement la ration prévue pour lui. Cependant, il vaut mieux distribuer une bonne provende en farine avec un peu de fourrage qu'un granulé de mauvaise qualité. Pour limiter le gaspillage de l'aliment farineux fréquent, en particulier dans les jours suivant le sevrage, il est conseillé de ne remplir les mangeoires qu'à la moitié ou au plus haut deux tiers, ou d'y installer un système anti-gaspillage. Cette recommandation conduit à distribuer l'aliment au moins une fois par jour de manière à ce qu'au moins un jour sur deux les lapins finissent l'aliment farineux qui leur est distribué. Les besoins des animaux varient en fonction de l'âge et du stade de production. On distribuera donc différentes sortes d'aliments pour les lapins à l'engraissement, ou pour les lapines en reproduction si de tels aliments sont disponibles dans le commerce. Cependant, il n'existe souvent qu'un aliment mixte répondant toutefois assez bien aux besoins de tous. Ces différents aliments sont élaborés à partir de formules calculées par des scientifiques et en utilisant des matières premières dont on analyse périodiquement la composition. Notez bien, un élevage commercial est encore rentable si la dépense en aliments représente à peu près 60 à 65% des dépenses de production. Ration ou quantité consommée par jour à prévoir en fonction de la période de production. Lapin reproducteur mâle de 120 à 150 grammes par jour en fonction de son format et de la température. Lapine de 120 à 350 g par jour suivant le stade physiologique vide ou gestante ou allaitante ou gestante plus allaitante. Lapine plus portée de 6 à 7 lapro de 4 semaines de 600 à 700 g. Lapro en engraissement de 100 à 120 g par jour en moyenne. Chapitre 3. Conduite de l'élevage, reproduction et performance des lapins. La mise à la reproduction représente le début du cycle de production. La gestation dure 31 jours en moyenne, de 29 à 32 jours. L'objectif de l'éleveur de l'exploitation suivie est l'abattage et la vente de lapins de 73 jours, d'un poids vif de 2,6 kg, pour une durée d'engraissement de 6 semaines. Pour satisfaire la demande de lapins lourds, certains éleveurs gardent les lapins en engraissement une à deux semaines supplémentaires. 31. La réussite de la reproduction. Chez la lapine, l'ovulation n'a lieu qu'à la suite de l'accouplement. La lapine est en effet une espèce à ovulation provoquée. En outre, l'ovulation est multiple, ce qui peut donner des portées ayant jusqu'à 10 à 12 lapro à la naissance, voire plus. 32. La saillie. 321. La pratique de la saillie. La saillie ou accouplement a toujours lieu dans la cage du mâle. Avant de transférer la femelle, il est nécessaire de contrôler son état de santé et d'observer la vulve afin de savoir si elle est en phase de chaleur, c'est-à-dire à un stade hormonal où elle est en mesure d'accepter le mâle. La lapine en chaleur a une vulve rose foncée à rouge. Par contre, toute vulve rose pâle, violette ou blanche indique qu'elle sera peu ou pas réceptive. Lorsque la femelle est réceptive, elle est introduite dans la cage du mâle. Elle s'immobilise rapidement, s'étire et relève légèrement l'arrière-train, ce qui permet au mâle de la chevaucher et de réaliser la saillie. Si l'accouplement réussit, le mâle tombe sur le côté en poussant parfois un cri. Il est préférable de faire saillir deux fois la femelle avant de la retirer de la cage et de contrôler visuellement les deux saillies pour s'assurer que le mâle n'a pas éjaculé à côté dans le poil de l'arrière-train de la femelle. Il faut éviter de laisser mâle et femelle ensemble sur de longues périodes, surtout si la femelle montre des signes d'agressivité vis-à-vis du mâle. Si une femelle doit accepter un mâle, cela se fait dans les 3 à 4 minutes suivant l'introduction de la femelle dans la cage du mâle. Passé ce délai, il est inutile d'insister. Les saillies doivent se faire tôt le matin ou tard le soir, à la fraîche, au moins par un temps frais. À la fin de chaque accouplement, l'éleveur doit noter sur les fiches individuelles la date de l'accouplement et le numéro des individus accouplés. Des fiches générales pour l'élevage seront aussi à tenir. L'ensemble de ces fiches sert au suivi de l'élevage, donc permet d'apprécier la prolificité des femelles et l'efficacité des mâles. Le mâle domine la femelle. Il lui flaire l'arrière-train. La saillie proprement dite. Le mâle se laisse tomber sur le côté une fois qu'il a éjaculé. 322. L'âge à la première saillie. Les jeunes femelles doivent avoir 5 mois avant d'être saillies pour la première fois. Elles doivent avoir un poids minimum de 2,4 kg si le poids des femelles adultes est de 3 à 3,5 kg. Au moins 75% du poids adulte de la souche. Les mâles sont mis en reproduction à un âge un peu plus avancé, soit 5 mois et demi, voire 6 mois, avec un poids d'au moins 2,6 kg pour le même type de lapin. Limiter le nombre de saillies à une double saillie la première semaine de mise en reproduction, 2 la deuxième semaine, 3 la troisième semaine et les semaines suivantes. Pour la première saillie, proposer au mâle une femelle ayant déjà eu plusieurs accouplements et surtout une femelle qui est bien en chaleur. 323. L'intervalle mise bas saillie. Le délai de la présentation de la femelle au mâle après la mise bas dépend de l'importance de la portée et de la qualité de l'aliment distribué. Si l'alimentation des lapines est constituée essentiellement de fourrage auquel on ajoute ou non un complément, l'éleveur doit attendre le sevrage avant de saillir à nouveau la lapine. Par contre, si l'éleveur emploie un aliment composé équilibré, l'intervalle mise bas saillie peut être de 10 à 15 jours. Mais plus la portée est nombreuse, plus l'intervalle doit être allongé. Par exemple, pour une portée de 4 à 6 lapro, l'intervalle possible est de 10 jours. Pour une portée de 7 et plus, l'intervalle conseillé est de 15 jours. À l'inverse, pour une portée de 1 à 3 lapro, l'intervalle possible est de 7 jours. 33. La palpation diagnostic de gestation. La seule méthode efficace pour vérifier si la lapine est gestante ou non est la palpation abdominale. Il est hautement souhaitable d'apprendre à palper les femelles car cela permet de remettre immédiatement à saillir une lapine détectée vide et donc d'augmenter la productivité de l'élevage. Toutefois, une palpation trop brutale peut faire avorter les lapines. Dans ce cas, il vaut mieux s'abstenir et attendre la mise bas pour connaître le résultat de la saillie, ou 33 à 34 jours après une saillie inféconde, pour présenter à nouveau une lapine au mâle. Pour faire la palpation, le procédé est le suivant: une main saisit la peau au-dessus des reins et soulève l'arrière-train. L'autre main passe doucement sous l'abdomen au niveau du bas-ventre et avec un mouvement de va-et-vient repère des embryons sous forme de petites boules souples et glissantes au toucher en cas de gestation. Ces embryons ne sont pas à confondre avec les crottes qui par contre sont dures au toucher. La palpation chez la lapine peut se faire aisément entre le 12e et le 14e jour après la saillie, à partir du 10e jour pour les éleveurs très expérimentés. Réaliser une palpation plus tard ou trop brutalement, elle peut provoquer des avortements. Plus tôt, elle n'est pas possible. Les embryons ne sont pas encore assez développés pour être détectés. 34. La préparation de la boîte à nid. 3 jours avant la date présumée de la mise bas, une boîte à nid propre, désinfectée et garnie de copeaux de bois, de paille ou d'un foin de graminée bien sec sera installée suivant le modèle de cage utilisée, à l'intérieur ou à l'extérieur de la cage mère, appuyée contre la paroi. Dans ce dernier cas, veillez à ce que l'orifice d'accès soit au niveau du plancher de la cage. L'éleveur ne doit pas oublier d'ouvrir la boîte à nid en fin d'installation pour que la femelle puisse y aménager le nid. La lapine en fin de gestation va alors arracher des poils de son abdomen et de ses flancs pour les mélanger à la litière et constituer un nid confortable et chaud. Lors de la première mise bas, certaines femelles ne constituent pas correctement leur nid. Si cela se renouvelle, la femelle sera réformée en priorité et sa descendance ne sera pas utilisée pour la reproduction. 35. La mise bas. La lapine met bas généralement la nuit. La durée de la gestation est de 31 jours en moyenne plus ou moins un jour. La mise bas dure généralement de 15 à 20 minutes pour l'ensemble de la portée. Les premiers nés commencent à téter leur mère pendant qu'elle termine de mettre bas. À la naissance, les laprons ont le corps nu, c'est-à-dire glabre et les yeux fermés. Ces derniers s'ouvrent vers l'âge de 10 à 11 jours. Les poils commencent à être visibles vers 6 à 7 jours. Aussitôt après la mise bas, la femelle mange le placenta, ce qui est un réflexe normal. Ensuite, les restes de placenta s'il y en a, ainsi que les mornes éventuelles devront être retirés de la boîte à nid le plus rapidement possible. Une lapine produit en moyenne 6 à 7 lapros par portée dans les conditions tropicales. L'enregistrement des mises bas est indispensable au suivi de l'élevage. 36. L'adoption des lapros. L'adoption consiste à faire élever par une femelle un ou plusieurs lapros d'une autre portée, née à 2 jours d'intervalle au maximum. Elle est possible en cas d'abandon par la mère de ses lapros ou à la suite de la mort de la femelle, en cas de refus d'allaitement ou d'allaitement insuffisant. Mais l'adoption permet surtout d'égaliser les tailles des portées ou de répartir rationnellement les lapros afin de favoriser un allaitement régulier. Les lapros à adopter seront pris dans les portées de taille égale ou supérieure à 7 lapros. On les choisira parmi les plus vigoureux de la portée d'origine afin de favoriser leur adaptation dans leur nouvelle portée qui aura moins de 7 lapros et donc des lapros également vigoureux. On conseille de ne pas faire adopter plus de 2 lapros supplémentaires à une lapine. La réussite de l'adoption sera facilitée s'il est possible de fermer le nid pendant 24 heures, donc d'empêcher l'accès de la femelle pendant ce temps. Cela est rendu possible par le fait que la lapine allaite normalement ses petits une seule fois par jour. 37. La surveillance des lapros sous la mère et l'allaitement contrôlé. Les lapros morts et non retirés du nid peuvent être responsables de nombreuses maladies. Il est important d'effectuer un contrôle journalier, les 2 premières semaines, pour déceler rapidement les lapros non allaités et retirer les morts. La boîte à nid sera retirée de la cage mère vers le 21e jour après la naissance. Elle doit toujours contenir une litière propre. L'allaitement contrôlé est une technique très intéressante née de l'observation du comportement des lapines sauvages. La lapine ne visite ses lapros dans le terrier qu'une fois par jour pour les allaiter. La tétée dure alors quelques minutes seulement. En élevage rationnel, pendant les 15 à 20 jours suivant la mise bas, l'éleveur donnera à la lapine accès au nid 15 à 30 minutes par jour. Il peut aussi se contenter de ne le faire qu'une seule fois par jour après la mise bas. Il contrôlera ensuite la portée et repérera facilement le ou les lapros qui n'ont pas suffisamment tété. Le lapro en bonne santé, en effet, a le ventre rebondi. Dans les 4 à 5 jours qui suivent la naissance, on peut même voir le lait dans l'estomac à travers la paroi abdominale encore fine. L'allaitement contrôlé est plus facile avec des boîtes à nid extérieures munies d'une trappe de fermeture. Mais certains éleveurs placent les boîtes à nid chaque matin dans les cages, puis les stockent empilées dans un coin abrité de l'élevage. La technique de l'allaitement contrôlé présente plusieurs avantages: bon confort du nid, meilleure hygiène. Les lapines ne peuvent pas uriner ou faire leur crotte dans le nid, égalisation des portées et adoption plus aisée, meilleure régularité des laproteries et élimination plus facile. 38. Le sevrage. La séparation des lapros de la mère doit avoir lieu environ 33 à 35 jours après la mise bas lorsque l'éleveur nourrit ses animaux avec un aliment composé. Dans un élevage familial dont l'essentiel de la nourriture est basé sur les fourrages, le sevrage peut être plus tardif et intervenir 40 à 45 jours après la mise bas. La séparation à 28 jours d'âge est possible mais comporte des risques de mortalité un peu accrus à l'engraissement. Un sevrage à plus de 45 jours est un non-sens. Au moment du sevrage, les lapros sont pesés et éventuellement marqués tatouage à l'oreille. Les mâles sont séparés des femelles après sexage. 4. L'engraissement. Les jeunes lapins et lapines vont désormais séjourner dans les cages d'engraissement et le cas échéant dans un bâtiment engraissement. Ils y resteront 2 à 3 mois en fonction de la race type génétique et du poids final recherché. En fin d'engraissement, certains lapins seront sélectionnés pour la reproduction. En général, les mâles sont retenus pour leur vitesse de croissance et leur conformation. Les femelles en bon état sont retenues d'après la taille des portées produites par leur mère, les qualités maternelles de cette dernière, d'où l'intérêt de fiches d'enregistrement bien tenues. Les lapins restants sont livrés abattus pour la boucherie ou vendus vivants. Alors qu'à la maternité les lapines sont élevées en cage. Individuelle, à l'engraissement les lapros sont élevés en cage collective. La densité des lapros par cage à l'engraissement est de 12 à 14 lapins par mètre carré. À la fin de l'engraissement, soit 3,5 à 4 mois après la naissance, les lapins ont un poids moyen de 2 à 2,5 kg. Au terme du troisième mois, il peut y avoir des bagarres entre les mâles et les femelles, d'où la nécessité de les séparer. Chapitre 4. Maladies et traitements. La principale cause de mortalité chez le lapin est les maladies intestinales. Les maladies respiratoires viennent ensuite. Parfois en conséquence indirecte, les troubles intestinaux provoquent une diminution de la résistance. Il existe aussi un groupe de maladies dont la plus connue mais la moins fréquente est probablement la myxomatose. Les parasites de la peau sont gênants mais facilement curables. La prévention des maladies est la chose la plus simple, la moins coûteuse et la plus logique qui soit. Les médicaments doivent être seulement utilisés lorsque la malchance frappe car ils n'ont pas toujours l'effet désiré. Ils sont souvent difficiles à obtenir et très coûteux. L'accent est mis dans ce chapitre sur la prévention des maladies. 41. Les maladies digestives. À la coccidiose. C'est une maladie parasitaire due à un petit organisme portant le nom de coccidie. Il existe des coccidioses intestinales et une coccidiose hépatique. Les coccidies se multiplient dans l'intestin du lapin et l'infection est répandue dans le milieu extérieur par les crottes. Le lapin est donc sa propre source de contamination. Les élevages utilisant les cages grillagées et respectant les règles d'hygiène enlèvement des crottes. Désinfection des cages connaissent une infestation limitée alors que les élevages traditionnels sur litière sont atteints par les formes les plus graves. La coccidiose intestinale aiguë est caractérisée par l'apparition d'une diarrhée très liquide parfois teintée de sang, provoquant une déshydratation rapide et intense de l'animal. La mort survient souvent en 48 heures. Cependant, dans la majorité des cas, la coccidiose est une affection inapparente qui ne se traduit que par un retard de croissance. La présence de coccidie dans un prélèvement examiné au microscope ne signifie pas l'existence de la maladie. Les coccidioses, si elles peuvent être parfois mortelles à elles seules, sont le plus souvent un facteur favorisant majeur de l'apparition de troubles digestifs à l'occasion d'une erreur d'élevage. D'un point de vue pratique, on distribuera en permanence dans l'alimentation un anticoccidien à titre préventif, sulfadimérazine, furazolidone. Il peut par exemple donner du mucoxyde à la dose d'un sachet dans un litre d'eau pour 40 kg de lapin. En cas de maladie aiguë, le traitement se fera sous contrôle vétérinaire. B. Les entérites microbiennes. Ce sont des diarrhées causées par différents types de microbes plus ou moins pathogènes Clostridium, Welschia, Escherichia, Salmonella. Elles ne se déclenchent qu'à la suite d'une anomalie métabolique faisant intervenir l'abreuvement et l'alimentation. Une source de contamination peut être l'abreuvement insuffisant, trop froid ou pollué à mort dans la réserve d'eau. L'aliment intervient quand les formules ou le régime est changé. De ce fait, tout changement d'aliment doit se faire progressivement sur une période de 3 semaines avec incorporation progressive du nouvel aliment dans la ration des animaux. C'est la transition alimentaire. D'autres, par les méthodes d'élevage irraisonnées, le vent, la pluie, les frayeurs sont souvent des facteurs déclenchants car ils arrêtent le bon fonctionnement du tube digestif. Ces troubles intestinaux se traduisent souvent soit par de la diarrhée, soit par le ballonnement intestinal gros ventre ou les deux à la fois et de la mortalité souvent brutale suivie d'une décomposition rapide du cadavre. En ce qui concerne le traitement, on fait appel aux antibiotiques et sulfamides classiques associés à une diète ou à volonté, pas d'aliments de 24 heures, mais il faut surtout corriger les erreurs d'élevage et réalimenter très progressivement. En cas de grande contamination, il est préférable de voir un vétérinaire. On pourra également vacciner les animaux avec du vaccin polyvalent contre les toxi-infections comme Serranamix. 42. Les maladies respiratoires. Il s'agit essentiellement du coryza qui se caractérise par des éternuements par crise convulsive qui atteignent un pourcentage élevé de lapins. Enfin apparaît au niveau des narines un écoulement clair qui peut devenir purulent et évoluer vers une localisation pulmonaire entraînant la mort. On observe parfois une conjonctivite associée yeux rouges. Le coryza entraîne des pertes économiques importantes, arrêts de croissance. Certains lapins sont plus résistants au coryza que d'autres qui peuvent l'attraper plusieurs fois de suite. Le coryza est dû à l'action pathogène de différents microbes Pasteurella, Bordetella, mais en réalité l'état pathologique du lapin avant la maladie lactation, sevrage et les facteurs extérieurs tels que la pluie, le vent, les poussières, les odeurs fortes jouent un rôle prépondérant dans l'apparition de la maladie. En conséquence, tout traitement qui n'est pas accompagné d'une amélioration du lapin, hygiène de l'habitat, de l'alimentation, est voué à l'échec ou à une récidive des symptômes à court terme. Des antibiotiques streptomycine, tétracycline distribués dans l'alimentation ou en piqûre provoquent en général une amélioration rapide. Mais ces traitements n'empêchent pas une rechute. Les sujets les plus atteints seront retirés de l'élevage et mis en infirmerie en plein air. Ceux qui sont rebelles au traitement seront sacrifiés. Il faut également vérifier les techniques d'élevage bâtiment, aération, température, hygiène. La pneumonie pasteurellique est souvent une complication du coryza. C'est une maladie grave en raison de son évolution rapide vers la mort. Le traitement fait appel aux antibiotiques sous contrôle vétérinaire. La prévention à la vaccination Neolaprovex ND et à la correction des normes d'habitat. 43. Les maladies dermiques. À la gale. C'est la gale des oreilles due à un petit acarien Psoropte equi ou pecuniculi qui sont les plus fréquentes. L'animal penche la tête toujours du même côté puis secoue et se gratte énergiquement les oreilles. On peut voir à l'intérieur du conduit auditif des croûtes jaunes plus ou moins importantes. Si elle n'est pas soignée à temps, la gale auriculaire peut se compliquer d'infections bactériennes avec otites internes et atteinte du cervelet rapidement mortelle. Le traitement fait appel à l'instillation de produits acaricides antigales BioV après extraction des croûtes les plus importantes. Renouveler le traitement 3 à 8 jours d'intervalle. B. Les maux de pattes. Ce sont des abcès qui apparaissent sur la face postérieure des jarrets. Des meurtrissures des pattes dues à un grillage de mailles inadéquates et des bagarres s'infectent par des microbes tels que les staphylocoques. Certaines souches de lapins sont plus sensibles ainsi que les animaux lourds et ceux qui vivent dans des litières humides. Seul le traitement local peut venir à bout de cette infection tonte des poils, des infections solution de Daquin et eau oxygénée et application d'un spray comme Négérol. 44. La prévention des maladies. Voici quelques mesures à prendre pour prévenir les maladies de votre cheptel. Premièrement, évitez d'acheter des lapins sur le marché rendez-vous de tous les microbes. Achetez de préférence à des éleveurs renommés ou à des paysans qui ont des bâtiments propres et des lapins paraissant en bonne santé. De toute façon, examinez bien les lapins avant de les acheter et une fois rentrés chez vous, tenez-les à l'écart des autres pendant au moins 2 semaines quarantaine. Deuxièmement, contrôlez régulièrement la santé de vos lapins sur les points suivants. Examinez le nez, les paupières, le bord des oreilles gale petite croûte, l'intérieur de l'oreille gale de l'oreille. Examinez les excréments, sont-ils secs ou légèrement pâteux. Examinez le nez et les pattes avant certains rhumes provoquent une sorte de morve qui salit les pattes avant. Troisièmement, contrôlez l'odeur de la cage, une diarrhée entérite provoque souvent une odeur désagréable. Les lapines allaitantes sont sensibles au stress et aux germes pathogènes intestinaux toujours présents comme les coccidies. Nettoyez chaque semaine la boîte à nid. Quatrièmement, choisissez un modèle de cage et utilisez des matériaux faciles à nettoyer. Sous les tropiques chauds, une litière paille, etc. présente plus d'inconvénients que d'avantages. Ne mettez donc pas de litière même si on le fait ou faisait en Europe ou aux États-Unis. Cinquièmement, si vous soupçonnez la présence d'une maladie, désinfectez la cage. La désinfection de la cage seule est inutile si le lapin est remis dans la cage sans être guéri car il porte alors encore la maladie. Il existe différentes sortes de désinfectants comme le phénol, le créozote, des solutions de lessive alcali, soude, le typol, le formol, attention, c'est très fort. À défaut d'autres produits, vous pouvez utiliser du kérosène. N'oubliez pas le savon et les agents blanchissants comme les savons chlorés. La plupart de ces désinfectants ont une odeur forte et suffocante pour l'homme et pour le lapin. Sortez les lapins de leur cage lorsque vous nettoyez avec des produits très forts et ne les remettez pas dans une cage qui sent encore mauvais. Le meilleur désinfectant jamais nocif, toujours bon marché, mais pas toujours disponible, est le soleil. Le séchage est le premier pas vers la désinfection. Le feu, la petite flamme du gaz, est efficace mais présente des inconvénients évidents. Sixièmement, séparez les lapins malades pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Septièmement, l'air du bâtiment doit être frais et propre. C'est essentiel. Il ne doit pas y avoir de fortes odeurs d'excréments. Bien que l'odorat de chacun présente de grandes différences, vous pouvez vous fier à votre nez. Si une odeur vous est insupportable, elle le sera aussi pour les lapins. Prophylaxie. La prophylaxie comporte l'ensemble des méthodes destinées à empêcher l'apparition et la propagation de certaines maladies dans le but de préserver la santé des animaux. One Prophylaxy Sanitaire. Elle a consisté principalement en l'installation quotidienne de pédiluves à l'entrée du bâtiment. Le pédiluve est préparé à partir d'une solution de crésil-crésilol sodique diluée à 5%. Les locaux d'élevage sont balayés chaque jour. Quant aux mangeoires, elles sont lavées, séchées au soleil pendant 8 heures tous les mois tandis que les cages sont lavées après chaque sevrage à l'aide de la solution de crésil diluée à 5% puis flambées avec un brûleur à gaz. 2 Prophylaxy Medical. Il s'agit du déparasitage tous les 3 mois avec le levamisole à la dose d'un gramme par litre d'eau en une journée. La prévention des maladies d'origine microbienne se fait tous les 3 mois avec les principes actifs et des complexes de vitamines associés à des oligoéléments. Ainsi, le complexe utilisé régulièrement est l'alphasryl à la dose de 0,5 g par litre pendant 5 jours. Celui des vitamines est l'olivitasol à la dose de 0,5 g par litre pendant 3 jours. Generalite. L'élément noble de la ration alimentaire humaine, notamment les protéines animales, connaît un déficit inquiétant dans les régions défavorisées dont l'Afrique subsaharienne en particulier. La quête d'une solution durable pour remédier à ce déficit a permis de développer l'élevage des espèces animales à cycle court et prolifique. Parmi ces espèces, le lapin, Oryctolagus cuniculus, occupe une place de choix. Petit mammifère originaire du sud de l'Europe et de l'Afrique, le lapin est un animal homéotherme qui par divers mécanismes comportementaux et physiologiques s'adapte aux conditions de son environnement bien qu'étant un animal à fourrure et donc mal adapté au climat tropical. Le lapin présente des atouts incontestables pour la production de viande. Il se reproduit vite et il est capable de rentabiliser au mieux des aliments végétaux bon marché. Cette faculté rend l'élevage possible dans diverses zones climatiques. Lorsque la température est supérieure à 30 degrés Celsius, le taux d'ovulation chez la lapine est réduit de moins de 5%. Les pays du Sud en général par leur climat chaud sont perturbés par ces baisses de rendement dans les performances de reproduction des lapines qui conditionnent très fortement la rentabilité d'un élevage. L'amélioration de ces performances peut être obtenue si les animaux ont un caractère naturel prédisposé. L'alimentation répond aux besoins de l'animal et si l'environnement est favorable. Taxonomie du lapin. Le lapin domestique ou lapin européen, Oryctolagus cuniculus, appartient avec les lièvres, genre le pu, et le lapin américain, Oryctolagus sylvilagus, au superordre des glires, ordre des lagomorphes, famille des léporidés, sous-famille des léporinés, maillet et hâle, 2003. Description du lapin. Petit animal à fourrure de couleur variable, à queue courte et à longues oreilles. Le lapin diffère du lièvre par des oreilles et des pattes plus courtes. Il se distingue des rongeurs par l'existence d'une deuxième paire d'incisives à la mâchoire supérieure. C'est un animal de mœurs crépusculaires et nocturnes, constructeur de terriers en pleine nature, peu bruyant, docile, qui aime la tranquillité. Craintif et sans défense, c'est par la fuite et sa prolificité qu'il assure la présence de l'espèce dans la nature malgré ses nombreux prédateurs. Nathan, 1959. Le lapin est un animal couvert d'une fourrure assez épaisse de couleurs variables. Les principales parties du corps du lapin sont identifiées sur la figure ci-dessous. Pour la majorité des races, à l'exception des nains, l'allure générale du corps est différente selon le sexe. Une tête large et forte, un thorax développé, des membres relativement épais et une musculature bien extériorisée sont généralement caractéristiques du mâle. Les femelles présentent, toute proportion gardée, plus de finesse générale avec une tête plus étroite, un corps paraissant plus allongé et une ossature un peu plus légère. Seul l'arrière-train est plus développé avec un bassin large. Programme de licence 3e année 1er semestre en cuniculture dispensé par le Dr Kebadar, titulaire d'un doctorat en production animale et gestion de parcours. Generalite. L'élément noble de la ration alimentaire humaine, notamment les protéines animales, connaît un déficit inquiétant dans les régions défavorisées dont l'Afrique subsaharienne en particulier. La quête d'une solution durable pour remédier à ce déficit a permis de développer l'élevage des espèces animales à cycle court et prolifique. Parmi ces espèces, le lapin, Oryctolagus cuniculus, occupe une place de choix. Petit mammifère originaire du sud de l'Europe et de l'Afrique, le lapin est un animal homéotherme qui par divers mécanismes comportementaux et physiologiques s'adapte aux conditions de son environnement. Bien qu'étant un animal à fourrure et donc mal adapté au climat tropical, le lapin présente des atouts incontestables pour la production de viande. Il se reproduit vite, et il est capable de rentabiliser au mieux des aliments végétaux bon marché. Cette faculté rend l'élevage possible dans diverses zones climatiques. Lorsque la température est supérieure à 30 degrés Celsius, le taux d'ovulation chez la lapine est réduit de moins de 5%. Les pays du Sud en général, par leur climat chaud, sont perturbés par ces baisses de rendement dans les performances de reproduction des lapines qui conditionnent très fortement la rentabilité d'un élevage. L'amélioration de ces performances peut être obtenue si les animaux ont un caractère naturel prédisposé, l'alimentation répond aux besoins de l'animal, et si l'environnement est favorable. Chapitre 1. Étude des races de lapins. Espèce très malléable, de multiplication rapide, le lapin a été pour l'amateur l'occasion de croisements et de sélections qui ont permis la création de nombreuses races. Celles-ci ne se différencient souvent que dans leur aspect extérieur par la taille adulte et la couleur du pelage. Elles ne présentent donc qu'un intérêt que l'on peut nommer de sportif, par exemple la conformation musculaire. Les caractères de production n'ont que très rarement été pris en considération dans la sélection. Cela explique que la notion de race ne pourra pas être associée automatiquement à des notions de niveau de production. Il existe de nombreuses races de lapins. On rencontre beaucoup d'hybridations entre races, et de nombreuses variations locales souvent appelées lapins locaux, races indigènes, races communes, etc. Nous avons classé ici les races en deux groupes, cela pour des raisons pratiques et sans prétention de faire des distinctions scientifiques correctes. Et caractéristiques des principales races. Les différentes races de lapins se distinguent en fonction de la nature et de la couleur du poil, et du format de l'animal. Le critère le plus souvent utilisé pour distinguer les races est la nature du poil. Les races ordinaires sont caractérisées par la présence de poils de bourre, environ 2 cm, et de poils de jarre nettement moins nombreux mais plus épais et plus longs, 3 à 4 cm. Les jarres sont aussi parfois appelées poils de garde. Les rex ou races dites à poils ras sont des races où bourre et jarre ont la même longueur, 2 cm, donnant un aspect velouté à la fourrure. Citons pour mémoire les races à duvet, lapins angora, et à poils de bourre, lapins rex. Parmi les races ordinaires, on distingue les petites races, moins de 3 kg, telles le petit russe. Ce sont des races d'amateurs, et même d'appartements. Les races d'agrément et de fourrure diffèrent des races de chair en ce sens qu'elles ne sont pas forcément de bons producteurs de viande ou de bons reproducteurs. Elles n'ont pas une grande résistance aux maladies. Elles ont de belles peaux, de belles couleurs, des oreilles bien formées, etc. L'angora, ou lapin angora, mérite une attention particulière. La valeur de l'angora pour la petite industrie ne doit pas être sous-estimée. Les poils peuvent atteindre une longueur considérable, et fournir des fibres de grande valeur pour la filature et le tissage. Il semble mieux pousser dans les climats froids, ce qui pourrait réduire la valeur de l'angora dans les plaines tropicales. Malheureusement, il existe peu d'informations sur ce sujet. Les races utiles sont les producteurs de viande grâce soit à un taux de croissance élevé nécessitant une bonne nourriture, soit à des portées nombreuses et fréquentes. Il faut faire ici une distinction selon le poids. Race légère adulte 2 à 3 kg, tel le petit russe. Ce sont des races d'amateurs, et même d'appartements. Race moyenne 3 à 5 kg, tel le fauve de Bourgogne, ou le néo-zélandais. Ce sont des races commerciales par excellence, bonne précocité, format correspondant à la demande, conformation satisfaisante, chair fine et dense. Race lourde plus de 5 kg. Les races géantes de 5 à 7 kg, telles le géant des Flandres, ou le bélier français. Elles ne sont intéressantes qu'en croisement industriel. Pour choisir une race, il faut tenir compte de plusieurs choses. Les croisements locaux semblent très souvent de races légères. Les lapins peuvent rester petits malgré un potentiel génétique qui devrait leur permettre de devenir très gros. Cela tient à une alimentation déficitaire, aux maladies, au accouplement précoce et trop fréquent, et au manque de soins. Avant d'envisager l'importation de gros et beaux lapins, il est préférable d'essayer de donner aux races locales la nourriture et les soins dont elles ont besoin. Les races importées font très souvent perdre du temps et de l'argent car elles se développent mal, tombent malades quand les conditions locales sont défavorables, et coûtent très cher. Rien que le stress causé par le transport peut provoquer des maladies, et même la mort. Même si un lapin robuste fait toujours bonne impression, les gros lapins ne sont pas toujours avantageux. Ils s'accouplent tardivement, et ne commencent à se reproduire qu'à l'âge de 9 mois environ, alors que les races plus légères se reproduisent dès l'âge de 6 mois. On peut donc choisir soit 3 lapines de 3 kg chacune mettant bas 3 fois et plus tôt, soit une seule lapine de 9 kg mettant bas une seule fois et plus tard. Par ailleurs, rares sont les familles qui peuvent consommer en une seule fois 4 kg de viande, le produit d'un lapin de 9 kg. Le lecteur doit être averti contre le géant des Flandres. Ce lapin a une très belle apparence physique qui favorise les relations publiques. 9 kg est un poids courant. mais sa fécondité n'est pas très bonne et sa prolificité est basse. Il est assez sensible aux maladies, maux de pattes notamment, et contient beaucoup plus d'os et d'intestin que les races moyennes, néo-zélandaises et californiennes. Choisissez une race adaptée à votre situation locale. Il est difficile de donner des conseils généraux sur ce sujet. S'il s'agit d'un élevage en basse-cour pour la production de viande, nous recommandons deux races, la néo-zélandaise et la californienne. Néanmoins, le choix doit dépendre surtout des disponibilités locales et des préférences personnelles car on ne soigne bien que ce qu'on aime. Pour obtenir de bons résultats, l'essentiel est de prendre goût à l'élevage et d'éviter au maximum les risques. Généralement, cela n'implique pas l'achat de lapins gros et coûteux. À le standard, fauve de Bourgogne. Apparence générale. Aspect calme et tranquille, proportions régulières, formes harmonieuses, larges, fortes et ramassées. L'ensemble dénote la vigueur et la santé. La tête est forte et large chez le mâle, fine et plus allongée chez la femelle. L'œil est bien ouvert, mais de grandeur moyenne, iris gris, marron, pupille bleu foncé dans les deux sexes. L'oreille est forte, bien ouverte, droite mais légèrement bombée du côté de la face interne, se touchant à leur base, longueur moyenne 13 cm. Le cou est court et gros dans les deux sexes. Le fanon est absent chez le mâle, il est admis chez la femelle adulte, mais reste simple et sans extension exagérée. Les pattes sont courtes et fortes. Conformation du corps. Il est bien proportionné, sans partie saillante, aux formes arrondies et plutôt ramassées, le râble est court et épais. La queue est moyenne, droite, collée contre la croupe. Le poids moyen du mâle est d'environ 3,5 à 4 kg. Celui de la femelle atteint 4,5 kg. La couleur générale est fauve-jaune, l'œil est cerclé de blanc pâle, se fondant avec le fauve, les cils sont plutôt foncés. Le dessous de la tête blanc pâle qui va en diminuant jusque derrière les mâchoires, et formant ainsi que les côtés du cou, une ligne de séparation entre la tête et les épaules. Les oreilles fauves dans leur partie externe sont pourvues intérieurement de poils blancs très courts et peu fournis, le bord est margé de cette même couleur. Le dessous des pattes, du ventre, et de la queue en blanc ou crème, sauf la partie interne des cuisses est légèrement fauve. En principe, le fauve doit dominer, et la partie blanche être moins apparente. Le poil est assez serré, et la couleur franche. Les poils sont fauves sur presque toute leur longueur, pour finir blanc à leur extrême. Base. Poids moyen en grammes selon l'âge. Lapro à la naissance 70. Lapro de 15 jours 350. Lapro d'un mois 7 cents. Lapro de 8 semaines 1700. Lapro de 10 semaines 2000. Lapro de 12 semaines 2005 cents à 2007 cents. Adulte 3005 cents à 4005 cents. La croissance est rapide. Le fauve de Bourgogne est réputé pour la finesse de sa chair. Le rendement en viande est élevé. B. Le néo-zélandais. C'est la race la plus couramment élevée aux États-Unis dont elle est originaire. C'est le type idéal du lapin à viande. Le cou est fort et court. Les oreilles sont courtes. Les pattes sont courtes. Le néo-zélandais est à peau blanche et poils blancs. Mais il existe des variétés à peau noire ou rousse. Les mères sont prolifiques avec environ 8 à 10 lapro par portée. Poids moyen en kilogrammes selon l'âge. Âge mâle femelle. 2 mois 2,1 à 1,8 à 2,1. 3 mois 2,5 2,2 à 2,5. 4 mois 3,2 2,7 à 3,2. 5 mois 3,8 3,6 à 3,8. 6 mois 4,1 4,5. 7 mois 4,5 5,5. La croissance est rapide. Son indice de consommation est de 3 à 3,5. À moins de 10 semaines, un lapro néo-zélandais donne une carcasse de 1200 à 1500 grammes. Son rendement est avantageux, 62 à 64%. C'est le californien. Lapin blanc à extrémité noire, oreilles, pattes, nez, queue. Son poids varie entre 4 et 5 kg. Très prisé en élevage industriel en raison de sa rusticité, de sa prolificité et de la qualité de sa chair. Le géant des Flandres. Animal de grande taille, long et large. Le poids varie de 5 à 7 kg pour les mâles et de 6 à 9 kg pour les femelles. Le poil court est de couleur gris lièvre. Utilisé en croisement, le géant des Flandres permet d'améliorer la croissance des races à chair plus fine. Chapitre 2. Alimentation. Dans la nature, un animal se nourrit en fonction des besoins de son organisme et de ses mœurs, de la disponibilité de la nourriture, de l'importance des populations cohabitant sur le même milieu. les lapins élevés en colonie, ou en cage, dépendent entièrement de l'éleveur pour leur nutrition. Celui-ci doit apporter chaque jour l'eau et la nourriture à ses animaux. Les lapins doivent toujours avoir de l'eau et de la nourriture à leur disposition. Les mangeoires et les abreuvoirs ne doivent jamais être vides. Les lapins bien nourris sont robustes et ont un beau pelage. Ils grandissent vite, font beaucoup de lapro et tombent rarement malades. L'étude du lapin domestique a permis de cerner le problème des besoins alimentaires du lapin, en particulier en matières minérales, vitamines, cellulose ou aliments de lest, lipides, protéines, glucides libérant de l'énergie, etc. La ration alimentaire correspond à la quantité de tous les aliments consommés sur une journée par l'animal. Équilibrée, elle doit satisfaire ses besoins. À physiologie digestive du lapin. La principale caractéristique du fonctionnement du tube digestif du lapin est la sécotrophie. Celle-ci peut se définir comme la production de deux types d'excréments, et par la réingestion systématique mais exclusive des crottes molles ou sécotrophies. Les crottes non réingérées sont celles que l'on retrouve dans les litières. On les désigne sous le nom de crottes dures. Elles ont une forme en goutte d'eau presque sphérique. Leur teneur en eau ne dépasse pas 40 à 50%. Elles sont riches en cellulose brute peu digestible. Les sécotrophes ou crottes molles sont constituées de boules plus petites réunies en grappes allongées comprenant 5 à 10 de ces petites boules. Leur teneur en eau est en général de 70%. Cela explique le caractère mou. Elles sont riches en protéines, 30 à 35% de matière sèche. Elles sont constituées par le contenu du cécum qui a transité à travers le côlon où il subit un enrobage par une fine couche de mucus. Au moment de leur émission par l'anus, les crottes molles sont aspirées par la bouche de l'animal et sont avalées directement. Elles subissent alors une digestion normale. L'élevage des lapins sur grillage ne supprime pas la sécotrophie car les lapins prélèvent directement à l'anus les crottes molles. Ainsi, le recyclage réalisé par l'ingestion des crottes molles permet d'augmenter la digestibilité de la ration en apportant des protéines issues de la dégradation de la cellulose par les micro-organismes du cécum, ce que réalisent les bovins dans la panse. B. Les besoins et comportements alimentaires des lapins. B. Un besoin en eau. Contrairement à ce que bon nombre d'éleveurs pensent, le lapin boit de l'eau. Il est vrai que cet herbivore lorsqu'il est alimenté exclusivement avec de l'herbe fraîche et riche en eau boit peu. Mais nourri avec des aliments secs, foin, granulés ou farine, les jeunes en croissance boivent 1,5 à 2 fois plus que la quantité d'aliments secs qu'ils mangent, tandis que la lapine allaitante boit 2 à 2,5 fois plus d'eau qu'elle ne mange d'aliments. Comme celle des humains, cette eau doit être potable pour ne pas entraîner de maladies. Si l'eau est sale, même s'il a soif, le lapin ne boit pas. Cet élément vital et ses qualités conditionnent la santé des lapins tant en maternité qu'en engraissement, permettant une bonne lactation et une bonne croissance de la naissance à l'abattage. L'eau est un facteur de réussite, mais peut aussi être source de problèmes selon l'attention qu'on y porte. Prévoir en moyenne par jour 0,2 à 0,3 litres d'eau par lapin en croissance, 0,6 à 0,7 litres d'eau pour une lapine allaitante, 1 litre et plus par jour pour une lapine et sa portée au cours de la semaine précédant le sevrage. Le lapin boit un grand nombre de fois au cours de la journée et de la nuit, 25 à 30 fois en moyenne par 24 heures. Bien veiller à ce que les bacs et les abreuvoirs soient remplis en permanence, en particulier le soir avec une quantité suffisante pour la nuit. Si l'eau est polluée par des micro-organismes, on peut la désinfecter simplement en y ajoutant de l'hypochlorite de sodium, eau de Javel. Le dosage préconisé est de 2 ml d'eau de Javel dosant 12 degrés chlorométriques pour 10 litres d'eau, ou 200 ml pour 1 mètre cube d'eau, ce qui est la même chose. On peut aussi utiliser d'autres produits pour désinfecter l'eau tels que les solutions iodées ou le permanganate de potassium. La propreté des abreuvoirs, la purge régulière et le nettoyage des bacs, des tuyaux des rampes d'abreuvement doivent être une préoccupation permanente du cuniculteur. Par ailleurs, si l'eau est polluée par des minéraux ou des matières organiques, c'est en amont, à la source d'approvisionnement en eau qu'il faut intervenir pour obtenir une eau potable, même norme que pour l'alimentation humaine. Enfin, l'eau ne doit pas chauffer au soleil. Les lapins ne boivent pas de l'eau chaude. Parfois, les lapins et les abreuvoirs sont bien à l'abri du soleil direct, mais les réservoirs et ou les canalisations d'alimentation en tube noir, un tuyau opaque et bien pour éviter la pullulation d'algues dans les tuyaux sont exposés au soleil direct. Ce qui arrive aux lapins, c'est de l'eau chaude. Il faut absolument éviter cette situation. B2 besoin en énergie. Le besoin quotidien en énergie du lapin varie en fonction du type de production, mais aussi avec la température ambiante. Ce besoin en énergie du lapin en croissance ou en reproduction, gestation, lactation peut être couverte par des aliments distribués à volonté contenant de 2200 à 2700 kcal d'énergie digestible par kilogramme de matière. Le lapin régule assez bien la quantité d'aliments à consommer tant que la température ne dépasse pas 25 à 26 degrés Celsius. Lorsqu'il fait plus chaud, par exemple 30 degrés Celsius, son appétit diminue et sa croissance ou sa production laitière ralentissent. Dans l'aliment, l'énergie est fournie par les glucides, sucres et féculents, les lipides ou graisses, la fraction digestible des fibres et secondairement par l'apport de protéines. B3 besoin en lipides. Le besoin en lipides ou graisses est couvert avec une ration contenant 2,5 à 3% de lipides. C'est la teneur spontanée de la majorité des aliments naturels entrant dans la ration. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter des corps gras aux aliments du lapin pour couvrir ses besoins énergétiques car les matières premières utilisées en contiennent suffisamment. Certaines sont même particulièrement riches comme les sons de riz, 3 à 16% de lipides suivant qu'ils ont été déshuilés ou non, ou certains tourteaux obtenus par pression simple. Par exemple 8 à 9% de lipides dans des tourteaux expellés de copra ou de palmiste. B4 besoin en cellulose, fibres. La cellulose est un composant végétal qui, combiné avec la lignine, des hémicelluloses et des pectines constituent les parois des cellules végétales, l'élément majeur de rigidité de la plante. Le lapin est un pseudo-ruminant sinon un faux ruminant. Son tube digestif a besoin de lest pour bien fonctionner. Celui-ci est fourni par les parois des végétaux qu'il mange. De plus, grâce aux micro-organismes de son cécum, le lapin est capable de digérer en partie ses éléments fibreux. Ses besoins sont donc plus importants que d'autres espèces d'élevage comme le porc ou le poulet. Pour les lapins en engraissement, le taux de cellulose brute d'un aliment complet dosage par la méthode de Wind devra être de l'ordre de 14 à 16%, c'est-à-dire un taux nettement plus élevé que celui des aliments pour volaille. Les lapines reproductrices pourront se satisfaire d'un aliment ne contenant que 12 à 13% de cellulose brute. En plus de la cellulose en partie digestible, 25 à 30%, le lapin doit trouver dans sa ration au moins 4 à 5% de lignine, élément indigestible mais qui assure un fonctionnement régulier au tube digestif et réduit fortement le risque de diarrhée. B5 besoin en protéines. Les protéines ou matières organiques azotées sont les molécules les plus originales de la constitution des êtres vivants animaux et végétaux. Les lapins en ont besoin pour la constitution de leur propre corps. Elles sont donc nécessaires pour la croissance et pour la production viande, lait, embryons, lapro. De récents travaux de recherche conduits en Europe ont montré qu'il existe une relation certaine entre l'efficacité alimentaire et la qualité des protéines. Ainsi, parmi les 21 acides aminés qui entrent dans la constitution des protéines, il y en a 10 qui sont des acides aminés essentiels non fabriqués par l'organisme du lapin. Lorsque les protéines alimentaires apportent ces acides aminés indispensables, la ration peut ne contenir que 15 à 16% de protéines brutes pour les lapins à l'engraissement. Chez la lapine reproductrice, le taux optimal de protéines brutes est d'environ 17 à 18%. Lorsque la température moyenne est supérieure à 25 à 27 degrés Celsius, il est souhaitable d'accroître d'environ un point la teneur en protéines des aliments, 16 à 17% pour l'engraissement, 18 à 19% pour les lapines allaitantes. B6 besoin en minéraux et en vitamines. Les minéraux calcium, phosphore, sodium, magnésium, etc. sont indispensables au fonctionnement et à la constitution de l'organisme du lapin. Ils entrent en particulier dans la constitution des os et du lait mais permettent aussi le fonctionnement en favorisant les équilibres intra- et extracellulaires. En phase d'allaitement, la femelle est particulièrement sensible à un bon apport minéral, par exemple calcium 1,1 à 1,3%, phosphore 0,6 à 0,7% de la ration. Les besoins en sels minéraux sont couverts en général par l'aliment commercial. Toutefois, les apports peuvent être améliorés par les compléments minéraux commerciaux. Les vitamines se trouvent dans les divers aliments qui sont distribués aux lapins. Les sources sont les fourrages verts, les céréales, les tourteaux, les sous-produits agroalimentaires, les restes de cuisine et les aliments composés. La provende apporte généralement les composés correspondant aux besoins des lapins. Les vitamines liposolubles A, D, E et K doivent être apportées par l'alimentation. Par contre, si les lapins sont en bonne santé, pas de diarrhée, les vitamines hydrosolubles C et toutes celles du groupe B sont fournies par la flore digestive et en particulier par l'ingestion des sécotrophes. Un apport de vitamine C peut aider les lapins à mieux supporter la chaleur, mais cette vitamine n'est pas très stable une fois mise dans les aliments ou l'eau de boisson. C'est le choix des aliments. Le choix des aliments à distribuer aux lapins dépend du type d'élevage. Pour un petit élevage, utilisation des fourrages. Le cuniculteur possédant quelques lapins pour sa consommation peut leur donner des fourrages, des déchets domestiques, des résidus des récoltes des champs et du jardinage. La ration ne sera pas parfaitement équilibrée, mais son prix de revient restera très faible. Les fourrages sont les herbes et les feuilles pouvant servir de nourriture aux animaux. Le lapin est un herbivore parmi les fourrages les plus courants en Afrique. Il aime manger herbe à lapin, Tridax procumbens feuille de palmier, et la aeguinéensis herbe de Guinée, Panicum maximum haricot sauvage, Centrosma pubescens feuille de patate aquatique, Hypomea aquatica feuille de patate douce, IP.